Champagnac, le juif de Metz. La femme d'un charron du village de Glatigny, dans le pays messin, allant le 15 septembre 1669 laver son linge à une fontaine voisine, son enfant âgé de 3 ans, qui la suivait à quelque distance, se laissa tomber. Elle voulut aller le relever et lui dit dans son petit langage qu'il se relèverait bien tout seul. Alors elle continua son chemin vers la fontaine. Un quart d'heure après, ne voyant pas reparaître son enfant, l'inquiétude s'empare de cette bonne mère. Elle retourne sur ses pas, va jusqu'à sa maison, revient dans la fontaine, mais en vain, pas un seul vestige de son enfant. Elle va tout déplorer, demander à ses parents, à ses voisins, s'ils n'ont pas vu un enfant passer. Personne ne l'a vu. Toutes les informations, toutes les recherches sont infructueuses. Enfin, la mère, s'étant amusée d'aller sur le grand chemin de Metz, y trouva l'empreinte des petits pieds de son enfant. Voyant venir de son côté un homme à cheval, elle l'attendit et lui demanda s'il n'avait pas vu un enfant dont elle lui donna le signalement. Le cavalier répondit qu'il avait rencontré un juif monté sur un cheval blanc, portant devant lui un enfant d'environ 3 ans. Sur cet indice, le charron qui avait accompagné sa femme sur la route part et arrive tout courant à la porte de Metz. Il s'informe auprès d'un tourneur établi près de la porte s'il n'a pas vu entrer dans la ville un enfant de 3 ans. Le tourneur lui fait une réponse toute semblable à celle du cavalier. Un paysan précise encore mieux le fait en ajoutant que ce juif était Raphaël Lévy de Boulay, et que lorsqu'il venait à Metz, il logeait chez son parent, nommé Garçon. Le charron se rend aussitôt à l'adresse indiquée. Il y réclame son enfant. On lui répond que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Et ce malheureux père se désespérait à quelques pas de là, interrogeant toutes les personnes qu'il rencontrait, lorsqu'une jeune fille juive s'approche de lui et lui dit en allemand « Il ne fallait rien dire ». Le charron, qui comprenait l'allemand, fut comme atterré par ces mots. Il ne douta plus que son fils ne fût perdu, sans ressources, et résolut d'en tirer vengeance. Il alla aussitôt rendre sa plainte de l'enlèvement de son fils au lieutenant criminel du bailliage le 3 octobre 1669. Les Juifs de Metz, avertis qu'on poursuivait leur frère Raphaël, lui écrivirent de venir de Boulay à Metz pour se justifier. Il se rendit à cette invitation. Les Juifs le conduisirent chez le commandant de la ville qui lui dit que s'il était innocent, il ne lui arriverait rien. Le lieutenant criminel avait déjà décrété contre lui et fait défense de laisser sortir aucun Juif de la ville. Raphaël se constitua de lui-même prisonnier. Une enquête eut lieu, 18 témoins furent entendus, et après la confrontation, il fut reconnu que Raphaël Lévy avait enlevé l'enfant. Les Juifs, qui s'intéressaient à leur coreligionnaire, le défendirent au moyen de l'alibi qu'ils essayèrent de prouver, mais ils ne purent y parvenir, et le procureur du roi du bailliage convoquit à ce que Raphaël Lévy fût brûlé vif et appliqué préalablement à la question ordinaire et extraordinaire. Le procureur général évoqua sur le champ cette affaire au Parlement. Le geôlier vint déposer que le juif avait jeté un billet à la servante de la maison et qu'elle en avait trouvé plusieurs autres dans sa poche. Ces billets étaient écrits en hébreu et en allemand. On les traduisit. Dans le billet numéro 1, le juif, écrivant à ses frères de Metz, leur faisait part des inquiétudes que lui causait son affaire. Le billet numéro 2 marquait qu'on lui enverrait d'un petit brin de paille pour mettre sous sa langue lors de l'interrogatoire. Et on lisait dans un autre « Si Dieu t'en garde, on te veut donner la question. Tu diras 3 fois « Moi, juif, juif, moi, vive, juif, juif, vive, vive, mon juif, vive, mort. » Les autres billets avaient été écrits à Raphaël par quelques-uns de ses amis qui lui donnait des instructions sur ce qu'il devait opposer aux témoins lors de la confrontation. Cependant, les Juifs répandirent le bruit que l'enfant du charron avait été dévoré par les bêtes féroces. Et pour le prouver, ils exposèrent sa tête et partie du col et partie des côtés et ses habits dans un bois à un quart de lieue de Glatigny. La chemise de cet enfant fut mise sur un buisson. En même temps, plusieurs personnes, envoyées par eux, vinrent faire des recherches dans le bois. Des proches trouvèrent peu après les restes du petit cadavre, plus deux petites robes, l'une dans l'autre, un bas et un bonnet rouge. Un conseiller se transporta sur les lieux avec le charron, qui n'eut pas de peine à reconnaître que le tout appartenait bien à son malheureux enfant. Tout ce qu'on avait trouvé dans le bois fut déposé au greffe, mais le juif interrogé s'inscrivit en faux contre l'enlèvement de l'enfant. Comme l'enquête suivait son cours, un autre juif nommé Gédéon Lévy, demeurant à une lieue de Glatigny, fut accusé d'avoir porté dans une hotte quelque chose au bois dont on vient de parler. Arrêté et interrogé, il nia le fait, mais il convint que les autres juifs l'avaient sollicité pour engager du monde à chercher dans le bois. Cependant, les témoins déposaient toujours contre les Russes et les menées de l'Israélite Raphaël. Celui-ci, d'un autre côté, variait dans tous ses interrogatoires. Enfin, le Parlement rendit son arrêt définitif le 16 janvier 1670, qui confirmait la sentence du premier juge et de plus condamnait Raphaël à 1500 livres de dommages-intérêts envers le père de l'enfant. L'arrêt portait en outre que Gédéon Lévy serait appliqué à la question extraordinaire et extraordinaire pour découvrir ce qui avait exposé l'enfant dans le bois, que M. Schaub, juif, serait arrêté et sa femme ajournée, et qu'il serait plus amplement informé du lieu où l'enfant avait été mis. Ce bailleur Schaub était un des principaux directeurs des Juifs de Metz, et en cette qualité, on présumait qu'il devait avoir eu connaissance de l'enlèvement de l'enfant, qui sans doute avait été destiné à être sacrifié, crime dont les Juifs étaient hautement accusés. Il avait été accusé formellement dans le procès, par les témoins à charge, d'avoir autrefois, de concert avec d'autres gens de sa religion, flagellé un crucifix, autre crime que les Juifs sont véhémentement soupçonnés de commettre selon les rites de leur communion. Raphaël Lévy, n'ayant fait aucun aveu à la question, fut mis entre les mains de deux confesseurs, un curé et un capucin. Mais celui-ci, malgré toute leur adresse, malgré les embâches de leurs questions, persista dans une dénégation complète. Il fut juif jusqu'à la mort, qu'il subit avec une grande fermeté. Gédéon Lévy, qui avait souffert la torture sans avoir rien avoué, fut condamné à un bannissement perpétuel et ses biens confisqués. Meyer Schaub dut payer une amende de 3000 livres et il fut défendu aux Juifs, sous peine de la vie, d'attenter dorénavant dans leur synagogue à la religion chrétienne, de s'assembler ailleurs que dans ces synagogues, les portes ouvertes à peine de 500 livres amende, et de sortir de leur quartier depuis le mercredi saint jusqu'au mercredi suivant. De plus, la cour ordonna que l'arrêt serait gravé sur une plaque de cuivre et attaché à un poteau dans la rue des Juifs. Quant à l'horrible forfait qui donna lieu à cet arrêt, il demeura toujours enveloppé d'un affreux mystère. On avait la certitude du crime, la connaissance de ses auteurs, mais on ne put que former des présomptions sur les circonstances abominables qui avaient accompagné son exécution.